France Inter, le 18-20.
Le démographe et historien Hervé Lebras avec nous jusqu'à 19h pour tirer les leçons de la crise que nous traversons, pour nous aider à lire la carte de la circulation du virus, des inégalités territoriales et sociales liées à cette pandémie. Nous aborderons aussi avec lui la question du racisme et la façon de le mesurer. Faut-il des statistiques dites ethniques, comme certains le demandent? Et d'ailleurs, sont-elles vraiment interdites ici en France pour le moment? Nous lui poserons la question. On dira aussi un mot des municipales, car Hervé Lebras, comme toujours, a étudié la carte des résultats du premier tour de très près. Et il y a, malgré l'abstention record liée au Covid, des leçons à en tirer. Nous serons aussi en ligne avec un autre passionné de cartes, le géographe et diplomate Michel Fouché, car le virus qui a mis la planète à l'arrêt s'est joué des frontières, un de ses sujets de prédilection. Également au sommaire de cette émission, préparée par Pierre Dessertaine et Virginie Rouzic, notre rubrique Heureux déconfiné, juste avant 19h ce soir, direction la Haute-Garonne pour voir comment les chambres d'hôtes s'adaptent aux contraintes sanitaires. À 19h, le journal d'Yves Decamp, à 19h20 au téléphone sonne, vacances franco-françaises ou séjour à l'étranger grâce à la progressive réouverture des frontières, comment se présente la saison touristique. Vous pouvez nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. J'ajoute qu'à 20h, vous pourrez suivre en direct l'intervention du président Macron avec, juste après, le décryptage de la rédaction de France Inter. D'avance, merci à Philippe Duclos et Patrick Henry qui sont aux manettes en régie ce soir. Merci aux standardistes qui attendent vos appels et à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Hervé Lebras.
Bonsoir.
Un grand merci d'être en studio ici avec nous. Vous êtes démographe, chercheur émérite à l'INED, historien à l'EHESS. Vous êtes Hervé Lebras, un passionné de cartes. Et des cartes, ben, il y en a eu beaucoup pendant cette crise. Des cartes de France en vert, en rouge, orange. Des chiffres aussi, beaucoup, qui ont été donnés chaque soir par Santé publique France. Nombre de décès, de malades admis en réanimation, de personnes guéries. Alors, vous venez de publier une note pour le compte de la Fondation Jean Jaurès intitulée « L'épidémie et son terrain social ». On va évidemment détailler cette étude. Mais dites-nous d'abord si votre curiosité de démographe a été satisfaite pendant ces trois mois. Si les données qui ont été communiquées, vous les avez jugées suffisantes ou pas?
Alors, d'une part, les données sur les décès, on a des données chaque jour par département. Donc ça, c'est déjà des données très intéressantes. Les décès, c'est, si je peux dire, plus intéressant que les contagions, parce que les contagions dépendent de beaucoup d'autres facteurs. Donc ça, c'était bien, ça m'a permis d'observer justement la géographie très particulière de cette épidémie en France. Ceci dit, la France n'a pas été le pays, au fond, le plus en pointe sur la fourniture de données. D'une part, on a eu très peu pratiquement pas de données sociales. Au fond, on aurait, je trouve, aimé avoir des enquêtes sur qui étaient les malades. On a eu juste une idée très vague de leur âge.
L'INSERM travaille dessus, d'après
oui,
ce que j'ai compris.
Bien sûr,
ils sont en train de faire une étude
enquête,
à l'échelle du
oui,
pays.
Oui, tout à fait. Il y a une enquête en cours, mais on aurait aimé le savoir sur le champ. C'est quand même très important
bien
d'avoir
sûr.
De la même manière, vous parliez des élections. On sait très rapidement quels sont les résultats des élections. Donc là, il y a eu un certain retard.
Les données ne sont pas remontées très vite, c'est ça que vous voulez dire?
Je crois que c'est un peu plus grave. Il n'y a pas eu un souci d'avoir des données de type social. On s'est vraiment braqué, c'était l'urgence, mais on s'est braqué sur le biologique et sur le médical, où il y a de très belles choses ont été faites. Mais du coup, le social était passé au fond au second plan. Et on s'est aussi beaucoup plus intéressé à leur typiquement à quel était le virus, comment mettre au point des tests, comment mettre au point le vaccin.
Une question très médicale.
Oui, qui travaille à un niveau qu'on peut appeler microbiologique. Et au fond, au niveau macroscopique, au niveau des humains, de leur rapport...
De la santé publique.
De la santé publique, il n'y a pas eu grand-chose, y compris sur quelle est la bonne distance. Je sais que c'est pas facile, mais j'ai l'impression qu'on en a manqué. C'est pas simplement en France. Ceci dit, dans d'autres pays, j'ai étudié la Suisse, l'Espagne et l'Italie, les données sont souvent un peu plus généreuses qu'en France. On a, par exemple, pour la Suisse, on a vraiment... la description de toutes les personnes qui ont été contaminées, avec ce qui leur est arrivé, avec leur âge, avec leur sexe. C'est déjà un tout petit peu mieux qu'en France.
C'est mieux pour les démographes comme vous. Sur les chiffres, Hervé Lebras, 29 000 morts, un peu plus de 29 000 pour l'instant, on peut parler d'un vrai pic de mortalité. Ou pas.
Oui, enfin, c'est une mortalité qui est relativement forte, mais...
La dernière fois qu'il y avait eu un chiffre important, c'était quoi? C'était 2003 ou pas?
Oui, il y a eu des chiffres autour de, disons, entre 10 et 15 000 plusieurs fois, là, mais la dernière grosse épidémie, c'est celle qu'on appelait la grippe de Hong Kong, où on pense, les chiffres sont incertains, mais c'est de l'ordre de 27 000 personnes, donc c'est de l'ordre de grandeur de l'épidémie actuelle, avec des moyens de lutte qui étaient quand même beaucoup moins perfectionnés que maintenant. Donc c'est une assez forte épidémie. Ceci dit, hélas, il meurt chaque année en France 610 000 personnes. C'est donc aussi une façon de dire, c'est pas des épidémies comme celle de peste ou de choléra, comme les grandes épidémies historiques. C'est une épidémie dure par rapport aux épidémies de grippe habituelles, mais c'est pas du niveau des grandes pandémies anciennes.
Alors on en vient à cette note, l'épidémie et son terrain social, que vous avez publié. Principal enseignement, si je vous ai bien lu, Hervé Lebras, vous allez m'arrêter si je dis des bêtises, vous notez que si les inégalités ont eu un rôle sur la mortalité, elles n'ont pas eu de rôle sur la propagation de l'épidémie. Ce qui a été déterminant, c'est ce que vous dites, ce sont les foyers de départ. Est-ce que j'ai bien compris ?
Absolument, c'est exactement cela. C'est-à-dire, il y a deux temps, la géographie de l'épidémie, là où elle a frappé le plus, là où ensuite elle s'est développée, est indépendante pratiquement des critères sociaux habituels, y compris de critères de densité, de critères de structure d'âge de la population, de critères de pauvreté. Tous ces critères-là jouent et joue d'ailleurs durement, mais une fois que l'épidémie est installée avec ce qu'on a appelé des clusters. Mais quand on cartographie l'épidémie elle-même, sa cartographie du départ jusqu'à la fin n'a rien à voir avec les cartographies sociales qu'on connaît. Il y a ça n'a rien à voir avec les cartographies de la densité, avec les cartographies justement de la pauvreté qui résument bien l'ensemble des problèmes, un grand nombre de problèmes sociaux en France. Mais dans les endroits où l'épidémie frappe fort, alors à ce moment-là, et c'est là qu'on a manqué de données, à ce moment-là, elle est vraisemblablement, on le sait pour quelques observations locales, discriminante et durement discriminante, selon le milieu social, selon peut-être plus encore que le milieu social, selon la position des personnes par rapport à l'épidémie. Il y avait ceux qui étaient en contact, le personnel soignant, ceux qui étaient en contact assez rapprochés, par exemple toutes les personnes qui assuraient des tâches de distribution, des tâches de commerce essentielles. C'est donc pas exactement le social habituel non plus, vous voyez.
C'est ce qui explique en partie la situation de la Seine-Saint-Denis, parce que vous insistez bien, ce virus il touche les plus âgés en priorité, or ce ne sont pas les départements dans lesquels la population est la plus âgée qui ont été touchés en priorité.
Oui, c'est même plutôt l'inverse, c'est un peu
c'était le
hasard.
Département le plus jeune de France.
Oui, c'est le département le plus jeune de France qui est un des plus frappés. C'est aussi le département le plus pauvre de France, mais paradoxalement, son voisin, qui sont les Hauts-de-Seine, et qui est le département le plus riche de France, est presque autant frappé, ce qui vous montre bien la complexité de la situation. Donc on a tout un bloc parisien, il y a aussi tout un bloc, on peut dire alsacien, et même remontant fortement vers la Grand Est, vers la Moselle, et puis entre les deux aussi. Et puis à part ça, il y a un bloc lyonnais, un peu moins fort, un petit peu un bloc méditerranéen, mais en dehors, notamment dans tout le sud-ouest, où c'est là qu'on a les plus fortes proportions de personnes âgées, il n'y a presque rien. Pour vous donner une idée de l'échelle des différences actuellement, ou du moins il y a quelques jours, l'Ariège, avec 150 000 habitants, comptait 2 décès. Le Haut-Rhin, avec 5 fois plus d'habitants, 750 000, comptait plus de 700 décès. Donc là-dedans, ce qui a joué est vraiment très caractéristique du moment où de la précocité de l'épidémie, avant qu'on ne la prenne vraiment au sérieux, avant que le confinement arrive. Le confinement a en quelque sorte gelé les situations. Là où il y avait déjà l'épidémie, elle a continué à se développer moins rapidement. Et puis là où elle n'était pas encore installée, elle a eu très peu d'impact. juste.
Donc on peut dire effectivement merci au confinement et à l'interdiction des déplacements, hein, d'une certaine façon. Alors je voudrais à ce sujet, Hervé Lebras, qu'on écoute une réaction qui a été provoquée par cette épidémie, parce qu'évidemment elle a provoqué des réactions de peur. On va prendre l'exemple de ce Mulhousien, dont on avait d'ailleurs raconté la mésaventure le mois dernier. C'est un amoureux de la Bretagne, il voulait aller passer quelques jours de vacances dans la forêt de Brocéliande après le confinement. Il avait trouvé un gîte, il s'apprêtait à finaliser sa réservation lorsque le propriétaire lui a fait comprendre qu'il était indésirable. Jacques, c'est le nom de ce vacancier éconduit, s'est confié à Patrick Janton de France Bleu Alsace.
J'ai trouvé quelque chose de très bien, gîte indépendant dans un grand jardin. J'ai eu le propriétaire au téléphone qui m'a dit « formidable, vous allez adorer ». Et puis en fait, je lui ai envoyé donc un mail de confirmation. Et là, tout à ma joie, je lui ai dit « un Alsacien qui découvre la Bretagne ». Et là, il me répond « on en a discuté avec ma femme, mais désolé, mais vous êtes dangereux et on peut pas, on refuse, c'est annulé ». Je suis resté scotché. Tout à coup, je me retrouvais pestiféré sans avoir la peste, j'ai pas eu le Covid, ça les regarde pas, mais je l'ai pas eu, du coup il se trouve que j'ai pas été malade du tout, c'est illégal, c'est une discrimination pure et simple quoi.
Voilà, on précise quand même que Jacques et sa famille ont finalement trouvé un autre gîte, mais près de Guérande. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, Hervé Lebras ?
Ah, je pense qu'il a tort. Je pense que historiquement, la manière dont particulièrement les populations européennes ont vaincu les grandes maladies, les grandes épidémies, c'est d'abord en contrôlant les entrées, c'est les quarantaines. Ça commence à Venise au 15e siècle à peu près, et c'est les lazarets, ça s'appelle notamment. Et puis ensuite, c'est à partir de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle les lignes, c'est-à-dire on bloque entièrement la ville ou les villes qui sont atteintes par l'épidémie et personne n'a le droit de sortir. Et quand c'est bien fait, on tire même sur les personnes qui veulent sortir. On se retrouve exactement dans le livre de Camus. Et c'est ça qui a stoppé les pestes. On a une preuve de cela, c'est que la peste a continué à sévir, par exemple, dans l'Empire ottoman, qui n'employait pas des mesures aussi strictes, qui a eu moins de prise sur une population qui était beaucoup plus multiculturelle, beaucoup plus
Donc vous dites à ce Breton qui ne veut pas lui louer son gîte qu'en fait il a raison, c'est ça ?
Ah oui, il a absolument raison. C'est une des... Je pense que c'est une
côté
des premières choses.
Ressort, là.
Oui,
un petit
Breton.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas... Il y a eu, malgré tout, il y a quand même eu un petit foyer en Bretagne, à Auray, dans le Morbihan. Donc c'est pas non plus... Les Bretons doivent aussi faire attention. La personne de la forêt de Brocéliande pouvait aussi refuser une personne venant d'Auray et elle aurait eu raison.
Et elle aurait eu raison. En tout cas, on a compris que le confinement avait joué un rôle très important pour freiner cette pandémie. Quand même une question, vous l'avez évoquée tout à l'heure, sur la densité de population. On ne comprend pas très bien pourquoi ce n'est pas un facteur important, notamment dans les grandes villes où il y a beaucoup de monde.
C'est un facteur important, sans doute, ça a dû jouer localement, mais ça n'a absolument pas atteint, dès qu'on sortait de la grande ville, il n'y a pas eu d'atteinte de l'épidémie. Quand j'avais fait des cartes, j'en avais publié dans le journal Le Monde, il y a sans doute eu un tout petit peu plus d'atteinte quand on est, par exemple, autour de Paris, quand on descend vers la Loire, mais c'est très secondaire par rapport aux différences entre les foyers principaux puis les zones qui n'étaient pas atteintes. Ça a très peu joué et ça a joué surtout localement.
Pour ce qui est de l'arrivée du virus sur le sol français, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair là, cette fois, quand on regarde les cartes, évidemment, dans votre domaine à vous, Hervé Lebras ?
Non, parce qu'il y a un seul point sur lequel, mais on le savait déjà à propos de l'épidémie de sida, c'est bien sûr le lien avec l'international. Donc, quand on regarde à plus large échelle, c'est quand même les villes qui ont des grands aéroports, des hubs, comme on dit, qui ont été presque toutes plus touchées, qui ont été à l'origine de foyers importants. C'est pas vrai pour Mulhouse, un problème, mais c'est vrai pour Paris. Vous voyez que c'est d'ailleurs dans le nord de Paris, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est vrai pour Milan, c'est vrai pour Madrid, c'est vrai pour Barcelone, c'est vrai pour... Vous voyez, on peut continuer.
Alors, ça justement, on va en parler maintenant avec Michel Fouché qui est en ligne. Vous restez évidemment à côté de moi, Hervé Lebras. Michel Fouché qui est géographe, diplomate, ancien ambassadeur de France, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales, auteur de nombreux ouvrages de géopolitique, notamment sur les frontières, et le dernier en date s'intitule précisément « Le retour des frontières ». Bonsoir Michel Fouché.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous aussi, vous avez suivi, j'imagine, ce que vient de nous dire Hervé Lebras. Ce virus, il a clairement pris le chemin de la mondialisation, du tourisme. Il a pris l'avion, le train, il a pris la route, c'est ça ?
Ce qui est frappant, c'est donc le foyer initial de Wuhan, qui n'est pas identifié officiellement suffisamment tôt, puisque ça démarre au moins au mois de novembre et peut-être même au mois d'août. Et quand je suis passé en Asie du Sud-Est fin janvier, il y avait encore des vols de Wuhan à Bangkok et à Phnom Penh. Ça va se diffuser vers Singapour, Corée du Sud, un étudiant brésilien, un touriste en Égypte, en Afrique du Sud. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'ensuite, il y a des foyers relais. Le plus important, c'est l'Italie du Nord. C'est d'ailleurs, Hervé, au début, c'est pas Milan, c'est un district industriel à 60 km de Milan, où il y a une usine Unilever qui a un site à Shanghai. Même chose en Bavière, d'ailleurs, un fabricant de climatiseurs, Webasto, qui travaille aussi en Chine. Et à partir de Milan, il y a ce fameux match du club de Bergame qui va se tenir à Milan, où il y a 3000 supporters qui viennent de l'Espagne, Valence, parce que je me suis toujours demandé pourquoi les foyers européens étaient sortis des zones de haute densité, Lombardie, Bavière, Île-de-France, Grand Est, Belgique, bassin de Londres. En Amérique latine, au Mexique, c'est quelqu'un qui rend une conférence à Bergame et une étudiante en échange à Milan. En Côte d'Ivoire, un Italien. Au Maroc, en Algérie, en Allemagne également. En Algérie, un mariage en provenance de France. En Australie, c'est passé par l'Iran et le Pakistan. Et puis aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a eu 725 000 voyageurs venus de Chine entre décembre, janvier, février. 3 millions au total, Espagne, Italie, Royaume-Uni, avant qu'on prenne des mesures. Donc c'est une géographie, disons, non pas de la mondialisation économique, mais de cette extraordinaire mobilité humaine aujourd'hui. Les étudiants, les stagiaires, les diasporas, les travailleurs migrants, les familles binationales, tous ces gens qui sont évidemment essentiellement dans les avions, il y a quelques exemples autour des bateaux de croisière. Hein, les églises et les pèlerins et les conférenciers. La Contamine Montjoie, le premier cas identifié en France autour d'une famille britannique, c'est quelqu'un qui rentrait d'un colloque à Singapour, qui était venu avec sa famille faire du ski. Il avait dîné la veille à Singapour, deux jours avant, avec des conférenciers qui eux-mêmes avaient dîné la veille avec des gens de Wuhan. Donc on arrive quand même à assez bien identifier tout ça.
Donc c'est pas très étonnant, pardonnez-moi Michel Fouché, c'est pas très étonnant que la réponse ensuite ce soit la fermeture des frontières.
Bah bien entendu, il y a 130 pays qui ont fermé les frontières plus ou moins partiellement en imposant des quarantaines, des vraies quarantaines ou bien des quatorzaines. Ce sont les méthodes qu'Hervé rappelait tout à l'heure, le lazaret, les lignes, parce que le pays en Asie du Sud-Est qui s'en sort le mieux à ce stade, c'est le Vietnam, parce que le Vietnam a fermé ses frontières terrestres et aériennes avec la Chine dès le 1er février. Après, comme le dit Hervé, une fois qu'il y a des foyers de départ, il y a aussi la circulation. Et là, dans le cas du Vietnam, de la Corée du Sud, du Japon, de Singapour, c'est lié évidemment aux structures sociales et politiques, où l'encadrement et les précautions sont extrêmement fortes, à la différence du cas du Brésil, qui va être malheureusement, qui va connaître une hécatombe, compte tenu de la désinvolture des dirigeants actuels.
Alors, ce qui est marquant quand même, donc, il y a ces fermetures de frontières, c'est que tout ça, ça se décide à l'échelle nationale, parce qu'on a quand même une pandémie, on a l'OMS qui aurait pu, après tout, demander qu'il y ait des mesures. Finalement, ce sont les États, à l'échelle de chaque nation, qu'on prend sa décision.
Parce que la frontière, comme vous le savez, c'est le périmètre de la souveraineté d'un État. C'est une institution définie par des traités, quelles que soient les circonstances de ces tracés, la guerre ou un accord ou un compromis. Ce sont des décisions nationales. La même chose d'ailleurs dans l'Union européenne, on peut à la rigueur essayer d'harmoniser. Après, vous avez un effet domino. Vous avez un effet domino qui va d'ailleurs continuer parce que on ouvre aujourd'hui à certaines destinations. C'est la même chose que votre Alsacien qui veut aller en Bretagne, si vous voulez. C'est une gestion assez fine. C'est une la gestion de la frontière, c'est une prérogative régalienne, donc c'est une prérogative des États, de même que le monopole du contrôle des moyens de circulation. Hein, le passeport est un bon exemple de cette fonction régalienne.
En tout cas, si on en revient au cas de notre Alsacien, il n'a pas pu aller en Bretagne, mais il s'est retrouvé aussi coincé pour aller en Allemagne. Et ça, c'est dans l'histoire de récente de l'Union européenne, c'est quand même quelque chose de très particulier. Cette frontière franco-allemande qui s'est retrouvée fermée, avec des frontaliers qui n'ont plus pu aller travailler, symboliquement, c'était pas rien.
Oui, bien sûr, mais enfin, on en a fait quand même beaucoup de cas, si vous voulez. Sur le fond, c'est intéressant parce qu'on touche à un symbole. Ce symbole, c'est que pendant des siècles, on s'est battu pour savoir où était la frontière, la limite entre la France et l'Allemagne. Hein, c'est une affaire qui commence en 843, au traité de Verdun. Hein, donc, c'est une vieille affaire, et c'est vrai que le fait que d'anciennes lignes de front, hein, ligne Maginot, Siegfried, le Rhin, on s'est battu sur le Rhin pendant des générations. Le fait que ça soit devenu de paisibles frontières et que l'ouverture soit en quelque sorte le symbole tangible de la paix, si vous voulez, c'est normal que ça choque quand il y a une fermeture. Mais sur les frontaliers, je dirais, il faut faire attention parce que les frontaliers, ils utilisent une autre frontière, qui est la frontière économique. Ils sont frontaliers parce qu'il y a une discontinuité dans les salaires ou les opportunités d'emploi entre Thionville et Luxembourg, entre Strasbourg et Kehl, entre Mulhouse et Bâle, ou entre Ferney-Voltaire et Genève. Et en réalité, les frontaliers, comme leur nom l'indique, ils jouent de la frontière. Donc, il y a quelque chose d'assez amusant à les voir critiquer le fait qu'on rétablit des barrières, alors qu'en réalité, c'est leur fonds de commerce. Ça n'a pas duré longtemps. Mais il n'y avait pas le choix, si vous voulez. Je dirais que les frontières de confinement, c'est un peu comme des masques collectifs.
Est-ce que vous diriez, Michel Fouché, que l'Union européenne sort affaiblie de cette crise? Parce que il y avait déjà eu la crise migratoire en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un manque de coordination? Est-ce qu'on peut dire que l'Union est affaiblie ou pas?
Alors, d'abord, les questions sanitaires, les questions de santé publique, sauf exception, comme la recherche sur le cancer et à l'hôpital transfrontalier de Puigcerdà, enfin Cerdagne franco-espagnole, ça n'est pas une compétence de l'Union européenne. Ce sont des compétences nationales. Première chose. Deuxièmement, cette crise met en valeur la diversité fondatrice de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas un État, hein, et l'Union européenne n'est pas seulement un marché. Regardez le modèle scandinave dont on parle tout le temps, Hervé Lebras le connaît par cœur. Eh ben, les Suédois, les Danois, les Norvégiens, les Finlandais n'ont pas du tout pris les mêmes décisions. Et aujourd'hui, la frontière avec la Suède est fermée en Norvège et au Danemark. Ils ont le même système social, ils ont les mêmes niveaux de vie, ils ont les mêmes référents. Mais ils n'ont pas les mêmes cultures. Ils n'ont pas les mêmes cultures exactement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la coordination est difficile. Je vous donne un exemple très très bête. Les vacances scolaires en Italie, c'est le 6 juin qu'on prend les vacances. En France, c'est à la fin, début juillet. Au Royaume-Uni, c'est le 14 juillet. Vous avez quasiment 5 à 6 semaines de différence. Alors, quand je lis dans la presse écrite qu'on réouvre les écoles en ordre dispersé, c'est stupide, c'est de l'ignorance, parce qu'en réalité, c'est une définition régalienne. En Allemagne, ce sont les Länder, il y a deux dates différentes. Au Royaume-Uni, l'Écosse n'a pas la même date de vacances scolaires que l'Angleterre. Vous voyez, tout ceci, on touche à du, comme dit Hervé, c'est du social. C'est du social, c'est du culturel. Et je crois qu'il faut accepter cette diversité. Moi, je pense que l'Union européenne sort très renforcée de cette crise. D'abord, dans ses champs de compétences budgétaires, l'appui économique considérable de la Banque centrale, et puis surtout, la prise de conscience de ses dépendances, la prise de conscience que Washington et Pékin n'ont absolument pas su coopérer pour créer un front commun multilatéral, et le fait aussi, on découvre que derrière la Chine, il y a quelque chose qui s'appelle le Parti communiste chinois, et récemment, la Commission européenne a, et c'est la première fois que ça arrive, a publié un texte sur ce qu'elle appelle l'infodémie, c'est-à-dire la multiplication de la propagande, hein, de la part des diplomates, de la diplomatie des loups, hein, comme on dit maintenant en Chine, contre l'Union européenne. Donc, si vous voulez, cette dépendance et la différence des systèmes politiques, plus évidemment l'opacité des chiffres. Je ne peux pas croire qu'en Chine, il n'y ait eu que 4000 morts. Quand on connaît Wuhan et le Hubei, on voit bien que c'est pas possible. Donc, brusquement, on prend conscience du fait que l'Union européenne est le plus grand espace démocratique du monde et qu'il faut se défendre.
Et qu'il va falloir relocaliser certaines productions qui se trouvent là-bas.
Ça, c'est un processus qui sera très lent, mais il y a aussi cette prise de conscience en France sur l'importance de l'industrie. Et ça, c'est un vrai changement, ça prendra du temps. Et je le souhaite, je l'avais écrit dans le journal Le Monde, ça serait tout bénéfice pour des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, même la Turquie, hein, qu'on puisse relocaliser. Si vous voulez, on aura une mondialisation plus régionalisée, mais ça va prendre 10 à 20 ans, parce que ce sont des décisions extrêmement lourdes.
Effectivement. Merci Michel Fouché. Peut-être que Hervé Lebras, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Michel Fouché.
Non, je suis globalement d'accord avec Michel, dont j'apprécie toujours les analyses. Peut-être justement insister sur le fait que ça a redonné de l'importance aux États. Il faut se rappeler que de la vieille définition de Max Weber sur les États, c'est eux qui ont le monopole de la violence légitime. Et c'était faire violence à la population que interdire la circulation, que confiner. Donc seuls les États pouvaient le faire. L'Union européenne ou l'OMS n'avaient aucun pouvoir de ce type là. Et quelque part, Michel Fouché a raison, et peu le disent, que l'Union européenne sortira renforcée, mais je pense que les États eux-mêmes sortiront renforcés. Les épidémies au cours de l'histoire, c'était une thèse d'ailleurs de Michel Foucault, ont renforcé la puissance de l'État.
Michel Fouché, dernière chose, est-ce que les géants du numérique sortent renforcés de cette histoire ?
Oui et non. Oui et non, parce que alors on a été obligé de recourir à Zoom, par exemple, et puis on se rend compte qu'une partie des infrastructures de Zoom, qui sert d'abord au conseil d'administration des entreprises, se situe en Chine. Donc je pense que, bien entendu, il y a eu un effet d'aubaine extraordinaire, notamment pour Amazon. Je le déplore personnellement, parce que je préfère mon libraire, hein, mais il était fermé. Mais ce qui s'est renforcé aussi, c'est notre volonté, dans l'Union européenne, d'abord de taxer le numérique et de mettre le holà, si vous voulez, à la toute puissance de ces structures. Et je reviens sur la Chine. Même au Royaume-Uni aujourd'hui, on s'interroge sur le fait de confier l'équipement de 5G, du nouveau réseau 5G, à des entreprises chinoises. Et c'est un des contentieux que la présidence allemande, qui commence le 1er juillet, va devoir gérer. Quel nouveau rapport avec la Chine ? Quel degré d'émancipation, quelle réponse à la propagande et aux fausses nouvelles. Et ça, c'est un sujet. L'Union européenne, comme le souhaite sa présidente quand elle a dit au mois de septembre qu'elle voulait une commission géopolitique, eh bien là, l'état du monde qui est dramatique, parce que le monde d'après ne sera pire que le monde d'avant, dans la mesure où il y a eu un effet d'accélération des tensions. Hein. Hong Kong, Taïwan, les conflits de frontières avec l'Inde, Erdogan contre la Grèce, contre la Libye, la Russie affaiblie, etc. Il y a une accélération des choses. L'Allemagne voit les troupes américaines se diminuer d'un tiers à la suite d'une décision de Trump qui date d'hier. Le monde d'après sera pire que le monde d'avant, mais en Union européenne, si vous voulez, on aura plus conscience du prix de nos valeurs et de la réalité de nos intérêts dans le monde tel qu'il a l'inconvénient d'être.
Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel Fouché, pour cette analyse. Votre dernier ouvrage, je le rappelle, Le retour des frontières, c'est aux éditions du CNRS. On n'a pas fini, Hervé Lebras, de tirer les enseignements de cette crise. On voit qu'il y en a absolument dans tous les domaines.
Hein. Oui, bien sûr, et le domaine qui va se préciser, qui commence à se préciser ces jours-ci, c'est bien sûr le domaine économique.
Et on va en parler. On va évidemment changer de registre, on va parler et des inégalités, du domaine économique et de tout ça. On va parler du racisme également, le temps d'écouter un peu de musique.
tratto se ne va di fronte all'ovvietà. Tutto questo è immensità, e lavorare per 10 ore, compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore, anche questa è immensità, tutta la realtà è immensità, come il sogno poi si dissolverà.
Immensità, Andrea Laszlo de Simone, un choix musical de Muriel Pérez.
France Inter. Le 18-20.
Toujours en compagnie du démographe Hervé Lebras avec nous jusqu'à 19h. Hervé Lebras, dont le dernier ouvrage s'intitule « Se sentir mal dans une France qui va bien », c'est aux éditions de l'Aube. C'est bien ça, Hervé Lebras.
Exactement.
Alors, on a vu à travers l'épidémie de Covid que nous n'étions pas tous égaux face à la pandémie. Dans certains pays, on a eu des statistiques qui permettent de dire, par exemple, que les Noirs sont plus touchés que les Blancs. C'est le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni. Ici, on ne le dit pas comme ça. C'est plus compliqué. Pour quelle raison? C'est toujours cette fameuse histoire des statistiques dites ethniques, Hervé Lebras.
Oui, alors sur les, on va revenir sur ces statistiques ethniques, mais sur le cas des États-Unis et de l'Angleterre, où il y a effectivement ce constat, mais c'est au fond une sorte de le fait de dire ce sont les Noirs les plus touchés, ce qui est exact, mais c'est une sorte de au fond de filet pour attraper des quantités ou des caractéristiques qui sont tout à fait différentes, qui sont des caractéristiques de santé, parce que les Noirs sont beaucoup plus souvent atteints par le diabète ou bien par l'obésité, aux États-Unis particulièrement, et puis aussi parce que c'est eux qui constituent une grande partie du personnel de santé. Mais comme on n'arrive pas à mesurer, si vous voulez, dans une population exactement et le niveau d'obésité, le niveau, la tâche exacte qu'on les personnes, par exemple, dans le domaine de la santé, on se rabat sur cet indicateur, les Noirs. Mais
donc pour vous, c'est pas le bon indicateur, si je vous entends bien.
Ça permet d'approcher la question, mais c'est surtout, ce n'est pas la cause, parce que si vous voulez, le virus, il fait pas la distinction entre les Noirs, les Blancs et les Jaunes. Donc c'est les statisticiens disent, c'est un proxy, c'est une manière d'être à proximité des vraies causes, qui sont des causes de proximité avec la maladie, et puis des cause de maladie elle-même.
Je précise quand même que des chercheurs de l'INED ont publié une note à propos de la Seine-Saint-Denis très récemment, c'est Patrick Simon et Solène Lebrun. Ils disent clairement, je les cite, si la pauvreté est un facteur évident dans la propagation du virus, sa mortalité, les discriminations ethno-raciales ont en toute vraisemblance eu un impact sur l'exposition au virus.
Oui, c'est une peut-être une autre... faut savoir ce qu'on entend par... cette ethno-raciale, est-ce que c'est le fait que les infirmières dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis soient plus souvent d'origine, le cas très fréquent, c'est d'origine antillaise? Est-ce que c'est une discrimination ethno-raciale? Je ne pense pas. À chaque fois, il y a une histoire précise. Alors, vous me posiez la question.
En tout cas, le débat revient sur ces statistiques dites ethniques. Et c'est vrai que chaque fois que le débat est sur la table, tout le monde grimpe au rideau et on n'arrive pas à en discuter de manière apaisée. Qu'en dit le démographe que vous êtes?
Alors, il faut faire un petit morceau d'histoire parce
Allons-y.
Que, au fond, il y a eu un moment assez important de discussion. C'était le président Sarkozy était tenté d'instaurer des statistiques ethniques, il avait créé une commission. D'ailleurs, je crois que Patrick Simon y participait. Ça s'appelait la COMED, ou le COMED. Et mais cette commission comportait très peu de fonds de spécialistes de cette question. C'était plutôt administratif. Donc, avec Elisabeth Badinter, j'avais constitué une autre commission, qui était une sorte de contre-commission. On pouvait penser, nous et nous étions assez hostiles à cette question des statistiques ethniques. La commission COMED était plutôt pour l'instauration de ces statistiques. Quand on regarde, les deux rapports ont été rendus. Ils sont le rapport de la commission dont je m'occupais a été publié aux éditions de l'Aube sous le titre « Le retour de la race ». C'est pas un titre qui est
politiquement
correct, mais quand on regarde les deux rapports, ils sont pas très différents. En fait, il y a une sorte de consensus en France qu'on peut décrire de la façon suivante. Les deux commissions étaient hostiles à la mesure principale de statistique ethnique qui consiste à introduire comme question dans le recensement l'origine ou bien l'appartenance ethnique et à l'introduire dans les données d'état civil, par exemple dans les actes de naissance. Donc là, il y a, je dirais en France, il y a une résistance parce que aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil, on a des motions variables d'ailleurs de l'appartenance raciale ou de l'appartenance
mais pourtant,
ethnique.
On a la fameuse étude Théo de l'INED et de l'INSEE, qui va d'ailleurs être mise à jour dans les prochains mois. On parle clairement de l'origine des personnes dans
cette étude Théo. Oui, mais bien sûr, mais il y a
donc en fait, c'est pas
d'autres...
complètement interdit.
Mais non, mais c'est pas du tout interdit. Il y a énormément d'études, mais c'est des études qui ne ciblent pas toute la population comme un recensement ou comme l'état civil. La différence très importante, c'est que quand vous ciblez toute la population, toute personne est obligée de se déclarer dans une classification ethnique. On pourra aussi revenir parce que ces classifications sont loin d'être simples et évidentes à instaurer. Mais la personne a de plus en plus tendance à s'identifier à ce groupe et donc les pays qui pratiquent cela évoluent vers des formes de communautarisme. C'est très clair, notamment en Afrique du Sud ou aux États-Unis, qui sont les deux pays notamment où il y a des statistiques ethniques avec des variations mais établies depuis longtemps. Donc là, en France, il est tout à fait possible. Parfois, il faut une autorisation de la CNIL dans certains cas, mais elle est donnée pour des recherches. Il est tout à fait possible d'utiliser des catégories ethniques, mais c'est pas des catégories standards. C'est-à-dire que selon le type d'étude, vous allez privilégier telle ou telle catégorie. Juste un exemple. Si vous étudiez les CV et les embauches dans les entreprises, ce qui va être important, ça va être particulièrement le nom de la personne, son prénom. C'est là que les discriminations vont se produire. Parfois aussi sur un lieu de résidence, le 93. Mais si vous étudiez comme une excellente étude de deux chercheurs, Fabien Jobard et René Lévy, sur les contrôles aux faciès, là, quand le flic fait le contrôle aux faciès, il connaît pas le prénom de la personne, il est simplement dans du purement racial, c'est-à-dire il a au premier coup d'œil, il va faire un choix. Et cette étude montre d'ailleurs, très bonne étude, que je pourrais en détailler la méthodologie qui était tout à fait remarquable, elle montre que si vous êtes noir, vous avez 10 fois plus de risque d'être arrêté pour contrôle par des policiers. Donc vous voyez que c'est pas du tout le même type de critères. Et l'idée, au fond, la différence essentielle dans les statistiques ethniques, c'est qu'il y a des statistiques ethniques qui se veulent générales, comme aux États-Unis, où chaque personne est mise dans une petite case. Et puis il y a des études statistiques localisées, des monographies, on dit parfois, qui s'attaquent à un problème et qui fabriquent des catégories ethniques pour, au fond, traiter de ce problème.
Hervé Lebras, je voudrais qu'on dise un petit mot des municipales, puisque la campagne du second tour débute demain, c'est dans 2 semaines, le deuxième tour des municipales. Vous avez étudié à la loupe les résultats du premier tour, il y a eu une très forte abstention. Mais malgré ça, vous avez réussi à voir que dans les zones où on s'était mobilisé l'an dernier, où les gilets jaunes s'étaient mobilisés, on s'était peut-être plus mobilisé au moment du scrutin aussi, dans la fameuse diagonale du vide, c'est ça ?
Oui, c'était ma surprise. Ce que j'ai fait, ce n'est pas de regarder seulement quel était le niveau de l'abstention, mais surtout de combien l'abstention avait progressé entre les dernières élections municipales et puis celle de 2010. Et là, effectivement, la carte qui est apparue montre que dans la zone dite de la diagonale du vide, c'est-à-dire c'est une grande partie de la France, au fond c'est une bande de 150 kilomètres qui part des Ardennes et puis qui descend pratiquement jusqu'aux Pyrénées, et on avait voté, la hausse hausse de l'abstention était plus faible qu'ailleurs. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'est dans cette zone-là que le mouvement des Gilets jaunes avait démarré. C'était une zone qui était en revendication au fond de proximité, qui demandait des services, qui demandait plus d'attention. Et j'ai eu une confirmation qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là dans la non-abstention, justement, ou dans la moindre abstention, c'est qu'il y a une petite partie de la Bretagne où cette fois-ci, c'était pas des gilets jaunes, mais c'était les bonnets rouges. C'est la partie qui est à cheval entre les côtes du Nord et le Finistère, qui s'appelle le Huelgoat. Et là aussi, l'abstention a été un peu moins... La hausse de l'abstention a été un peu moins forte. Donc c'est au fond, on retrouvait une revendication, à la fois d'ailleurs des bonnets rouges et des gilets jaunes, qui est une revendication de pouvoir local, d'avoir le moyen de prendre en main c'est destiné localement et d'être pas soumis à des diktats de l'État.
Voilà, les gilets jaunes, à l'époque, on voyait les centres-villes comme privilégiés. Là, ça, on a eu peut-être, avec le confinement, la revanche des pavillons avec jardin. Et puis, on nous dit que les Français vont peut-être aller s'installer à la campagne. Hervé Lebras,
vous savez, c'est à voir parce qu'il faut avoir du travail. Et vous ne trouvez pas forcément du travail dans les forêts, par quelques bûcherons.
Brocéliande, il n'y a pas forcément beaucoup de boulot. On va terminer, Hervé Lebras, avec notre rubrique « Heureux déconfinés ». Ce soir, le cas des chambres d'hôtes qui tentent de s'organiser pour accueillir au mieux les vacanciers en dépit des contraintes sanitaires qui existent toujours. Pour cela, direction Montesquieu-Lauragais et les Pesquets en Haute-Garonne. Visite de deux chambres d'hôtes avec Stéphane Iglesis. Écoutez, il y a des accents sympas.
Heureux comme des citadins à la campagne, c'est le principe des chambres d'hôtes où des propriétaires accueillent les touristes chez eux ou juste à côté. Alors que le SRAS-CoV-2 rôde encore, il faut s'adapter à de nouvelles règles. À Montesquieu-Lauragais, juste à côté du canal du Midi, dans cette chambre d'hôtes, les codes ont changé. Patricia Rouex, la propriétaire.
Déconfiné mais prudent. Tout le monde a le masque et les autres ont aussi le masque quand ils sont à l'intérieur de Bastide. Ah mais les petits déjeuners, c'était dans les chambres où, comme on a eu beaucoup de chance, il a fait très beau, donc c'était à l'extérieur avec des distances, évidemment. Ça commence, beaucoup de cyclistes, juillet commence à se remplir, mais bon, c'est très 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 lent. Et le mois de juin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ah ben habituellement, c'est complet. Il y a beaucoup de chambres prises. La cata. Nous mettons que du linge jetable pour la literie et la salle de bain aussi. Tout ce qui est serviette de toilette, ou à la demande, on peut donner du tissu, mais tout ce qui est drap housse de couette, oreiller, tout est en jetable. Voilà, pour justement gagner du temps sur le temps de ménage qui est multiplié par deux.
Évidemment, les touristes s'inquiètent des mesures barrières. Romain Boisson, fils de cette propriétaire.
Ils demandent beaucoup si la piscine elle est partagée déjà, si les espaces aussi sont plutôt indépendants. Parce qu'ils veulent éviter un peu le contact avec d'autres personnes, donc ça se comprend. Quoi. Je les rassure, voilà, je leur montre bien que voilà, la piscine, moi, elle est partagée, mais après qu'au niveau des règles de sécurité, les protocoles d'hygiène est vachement suivi. Après, au niveau de la mise en jachère aussi, une fois que le nettoyage est effectué, on laisse une journée de la chambre à l'air extérieur, quoi, sans faire le ménage, on fait le ménage au bout d'une seule journée. Ça nous prend plus de temps, deux fois plus de temps, mais bon, après, c'est nécessaire, quoi. C'est pour le bien-être de tout le monde, la sécurité sanitaire. Quoi. Ça fait toujours plaisir aussi d'accueillir des gens et de voir du monde.
Brigitte Lebris a des chambres d'hôtel au Pesquet, entre Saint-Gaudens et Toulouse. La saison, elle le sait, sera très différente.
Ça ne peut pas être une saison habituelle. C'est impossible parce que la clientèle étrangère ne viendra pas. Pour moi, ça représente 60% de mes résultats, en fait. Hein. Normalement, je donne mon linge, moi, dans un CAT. Mais là, il est fermé pour l'instant. Donc, je dois entretenir moi-même mon linge, ce qui est plutôt bien. Après que mes gens soient partis, j'aère. 2 heures après, j'enlève le linge, machine à laver, 60 degrés, 2 bouchons de Javel. Il sèche en plein soleil. J'ai 3 chambres et je n'utilise que 2. Je n'ai jamais réutilisé la même chambre avec d'autres hôtes le même soir. Ce qui va nous manquer aussi quand même, c'est notre table d'hôte. Parce que moi, je ne peux pas faire la table d'hôte à l'intérieur. Je peux la faire à l'extérieur, bien sûr, mais nous ne sommes pas autorisés pour l'instant à dîner avec nos hôtes. Alors il y a un compromis. Parce que parfois, j'ai des marcheurs quand même. Je peux pas les respecter au restaurant le soir. Ça, c'est pas possible. Alors, je leur fais toujours quelque chose, un vrai dîner. Et là, je reste un peu avec eux. Pas à leur table. On peut se voir, là, on peut se parler à ce moment-là. J'ai trouvé ce petit compromis.
Un peu la vie d'avant.
La vie d'avant. Un peu plus à distance, c'est tout. Mais comme la vie d'avant.
Les touristes devront donc s'adapter dans ces chambres d'hôtes à une sorte de bal masqué. C'est ce qui nous attend aussi à la campagne, même si la plupart des habitants ont mis bas les masques depuis longtemps dans ces zones aérées et très tranquilles.
Reportage de Stéphane Iglesis. Hervé Lebras, on va quand même se déplacer cet été. On est comme ça, les Français.
Oui, c'est une des les mesures justement qui sont prises sont quand même relativement souples et peu durables. Donc elles dépendent de la
situation. Le chef de l'État s'exprime ce soir. Peut-être
je pense que oui qu'il va, il va ouvrir. Déjà, on a ouvert, je crois, pour la SNCF, on peut maintenant utiliser toutes les places. Ça va être. Il y a des contraintes économiques qui vont de plus en plus faire sentir leur poids. Ceci dit. La racine de tout cela, c'est ces fameux gestes de distanciation. C'est pas le confinement, en fait, qui est peut-être le plus important. C'est surtout d'éviter des contacts de très grande proximité. Il y a des exemples extraordinaires comme cette boîte de nuit en Suisse où tout le monde sifflait dans le même sifflet, y compris un qui était contagieux. Et ça a rendu, au fond, la maladie dans l'Europe du Nord.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Hervé Lebras. On parlera du tourisme tout à l'heure au téléphone sonne. Un grand merci d'être venu nous voir ce soir.
Merci.